Pour finir l'année en beauté et avec le bon goût exemplaire qui la caractérise, nous allons poursuivre avec une nouvelle pituite de Luc sur le cas de Firefox, navigateur en voie d'extinction, nous dit Luc. On se retrouve en direct dans 4 minutes sur la radio Cause Commune, la voie des possibles.
En cette fin d'année, les assos appellent aux dons et c'est souvent une question de vie ou de mort. Si certaines ont à l'occasion donné plus l'impression de faire du chantage au suicide qu'autre chose, c'est quand même que tous ces acteurs font des trucs importants avec des moyens souvent dérisoires et généralement précaires. Il y a au milieu de tout ça une exception, un projet libre majeur agonisant et qui ne manque pourtant pas d'argent. Cette situation paradoxale est celle de Firefox, éditée par la Fondation Mozilla. Je pense que l'origine du paradoxe réside dans sa double nature. Je cite mozilla.org, « entreprise ou organisation à but non lucratif, les deux en vérité ». En relisant le très critique billet de blog de Cal Patterson de 2020, je me suis dit que l'organisation a trouvé le parfait équilibre entre le monde de l'entreprise et celui de l'organisation à but non lucratif. Ils ont tout simplement gardé le pire des deux mondes. Dans la parfaite tradition des entreprises de l'informatique de la baie de San Francisco, Mozilla jongle avec les projets stratégiques fumeux avec une telle adresse que personne ne comprend où elle veut aller. Dans le même temps, dans la droite ligne des organisations à but non lucratif les plus anticapitalistes, elle n'a pas employé les centaines de millions qu'elle a collectés dans sa bonne période pour investir et se garantir une autonomie financière. Comme d'autres entreprises, Mozilla n'a pas hésité à virer un quart de ses salariés au début du Covid en voyant ses revenus se réduire. Suivant les meilleures traditions des associations caritatives, ses frais de gestion sont particulièrement élevés et ses responsables misent sur une communauté de bénévoles pour faire avancer les choses. En tant que véritable entreprise de la tech, le top management de la fondation a fait exploser sa rémunération de 400% au fil des années pour atteindre plusieurs millions par an. En tant qu'organisation à but non lucratif pour qui la recherche du profit est terriblement vulgaire, la rémunération stratosphérique des têtes pensantes de la structure se fait au mépris de toute performance. Cal Patterson a ainsi illustré son article de deux belles courbes en miroir, où les parts de marché de Firefox et la rémunération du top management semblent inversement proportionnelles. Ça donnerait presque l'impression que ces gens, grassement payés par l'argent du concurrent Google, sont récompensés pour les piètres performances de Firefox. Peut-être que quelques esprits aussi affûtés que le rasoir d'Anlon me rétorqueront qu'il ne faut jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer, mais là, contre Kems, je leur opposerai le rasoir d'Occam qui veut qu'on n'aille pas chercher une explication plus complexe tant que la plus simple n'a pas été disqualifiée. Or, à mon sens, l'idée que des gens travaillent pour ceux qui les paient me semble la plus simple. Une chose est certaine, j'ai clairement déterminé une causalité implacable dans cette corrélation des courbes. À chaque fois que j'observe, ça me fait mal au cul. Aujourd'hui, Mozilla annonce un nouveau projet. Une IA digne de confiance qui génère des sites web sans besoin de coder. Je veux bien croire que c'est une super idée, je ne connais rien au domaine du web design. Par contre, le problème est que 3 ans ont passé depuis le billet de blog de Cal Patterson et que les parts de marché de Firefox ont encore baissé d'un tiers pour arriver à un 2% au global, 6% sur les PC. Cela représente une menace sérieuse car les agences américaines ne supportent pas les navigateurs dont la part de marché est inférieure à 2%. Et cela risque bien de laisser la porte ouverte à Chrome pour faire n'importe quoi. Ce qui m'échappe, c'est qu'à son époque glorieuse, Firefox avait planté Internet Explorer en bloquant les pop-ups de pub. C'était une libération. Aujourd'hui, seul Firefox permet d'installer des bloqueurs de pub réellement efficaces, au moment même où YouTube commence à les bannir et punit les utilisateurs de Firefox en leur imposant un délai de 5 secondes avant de lancer une vidéo. J'ai discuté avec des power users Microsoft qui ignoraient complètement qu'on pouvait se libérer de la publicité avec du logiciel libre. Pour eux, Firefox est juste ringard et dépassé, et la pub est une nuisance inévitable. Les deux situations historiques me semblent pourtant analogues, mais quelque chose a manifestement changé. L'avenir d'Internet, sans navigateur libre, sans respect des normes, est maîtrisé par des acteurs pour qui le profit vaut bien la diffusion de pubs partout, tout le temps, au contenu trompeur, malhonnête ou malsain, me semble bien sombre. Avec la Fondation Mozilla, qui me semble moins qu'incapable de faire face, je rêve d'une alternative. Je propose de l'appeler Firefox. Allez, maintenant qu'on a un nom, il ne reste plus qu'à trouver les centaines de millions, d'organiser tout ça, et hop, trop facile.
De retour en direct sur Libre à vous, l'émission de l'April qui vous raconte les libertés informatiques, nous venons d'écouter la dernière pituite de Luc, et nous allons finir par quelques annonces.